Les rendez-vous avec Alexandra. Jacqueline Hirsch, présidente de l'association Alexandra David-Nel. C'est tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, nous étions au Sikkim avec Alexandra David-Nel. Oh, il y a eu des scènes cocasses, terribles aussi, avec la rencontre d'un tigre, tandis que la voyageuse était en méditation, épuisante dans la tempête du vent et de la grêle. Aujourd'hui, nous sommes toujours en 1913 et nous voici à Bénarès, en Inde, sur la rive gauche du Gange, la cité sainte de Shiva. Le samedi 22 mars 1913, Alexandra décrit à Philippe l'événement de la semaine, celui de l'éclipse de lune. Selon la croyance populaire, une éclipse est une chose redoutable, un signe présageant quelque malheur public. Il faut donc conjurer les dieux, redoubler de pieuses pratiques. En d'autres parties de l'Inde, il faut se baigner dans un fleuve sacré à l'instant même où la lune apparaît. Et, par la vertu de cette baignade, on efface tous ses péchés. Les dames françaises dont je t'ai parlé ont loué un bateau et nous avons dîné en pique-nique et passé la soirée de 5h à 8h sur l'eau. La foule était énorme. Il y avait là 100 000 personnes, mais peut-être plus. Des villages entiers étaient arrivés et des trains spéciaux déversaient des pèlerins depuis 3 jours. Le spectacle valait la peine d'être vu. La nuit venue, sous la lune, le décor est devenu féerique avec le rougeoiement des bûchers du Burning Ghat. Naturellement, nous y sommes arrêtés un moment. Les préposés à ces rites funèbres en usent avec les défunts un peu à la façon de cuisiniers. Ils manient de longues gaules avec lesquelles ils avivent le feu et secouent les cadavres, tapant dessus quand ils sont à moitié consumés, pour les casser en morceaux et hâter l'incinération. L'autre jour, un crâne éclata et la cervelle toute bouillante coula comme une cascade, puis un autre cuisinier, cassant en deux un des défunts, engagea sa gaule dans le buste carbonisé et se mit à le secouer au-dessus du brasier pour dégager la perche. En Europe, personne ne supporterait ce spectacle. Ici, cela semble tout à fait naturel, personne ne s'émeut, et les Européens qui viennent et regardent ne paraissent pas plus émus que les Hindous. Effet de l'ambiance, j'imagine. Nous sommes en juin 1913. Alexandra continue de travailler à Bénarès, et notamment, elle apprend le sanskrit, qui est la langue des textes religieux hindous et bouddhistes, ainsi que des textes littéraires ou scientifiques. À ce titre, d'ailleurs, le sanskrit continue d'être utilisé comme à la manière du latin en Occident, comme langue liturgique, culturelle et même véhiculaire. Et voici ce qu'elle écrit le 18 juin à Philippe. Dans la monotonie des jours que j'égrène dans la sainte cité de Shiva, une diversion s'est produite hier. Le résultat en sera une lettre un peu plus intéressante pour toi. Or donc, Nushi. Alors, Nushi, c'est un des petits surnoms que Alexandra donne à son mari. On a Nushi, on a aussi le mouton, on a aussi le mouton frisé, enfin, il y a comme ça des petits noms sympathiques. Donc, j'ai donné hier une troisième conférence à Bénarès, mais ceci n'a rien de spécialement surprenant. Ce qui l'est davantage, c'est la réception d'honneur qui m'a été offerte par une société littéraire et par des sannyasins. Ceci sort des habitudes du pays. J'ai trouvé hier au local de la société une fort belle maison, tout un lot d'ascètes hindous venus là pour m'honorer. à la porte du local, arc de triomphe en verdure et en fleurs, bannières, etc. À l'étage, des membres sont réunis dans une grande salle, luxueuse pour l'Inde, c'est-à-dire contenant une profusion d'affreux lustres en verroterie de différentes couleurs, accrochés pêle-mêle au plafond, d'affligeants chromos suspendus au mur, de grandes glaces au cadre d'or, des girandoles, que sais-je. Nous sommes en bonne et haute compagnie. Après ceci, le plus éminent des sannyasins me lit une adresse et m'en remet le texte calligraphié dans l'ancien style sur papier jaspé d'or. L'adresse est enroulée dans un simple morceau de coton, semblable aux vêtements que portent les ascètes, au lieu d'être enveloppé dans de la soie. Cela signifie qu'il émane des gens qui ont embrassé la vie religieuse et qu'il va à quelqu'un qu'ils regardent d'eux-mêmes comme un personnage religieux. Et cela, dans l'Inde, est un honneur très grand. Je m'étonne immensément que des sannyasins de Bénarès, c'est-à-dire de la plus conservatrice et arrogante cité religieuse du pays, en soient venus à manifester en l'honneur d'une femme étrangère. Cette petite cérémonie, qui n'apparaît pas d'une importance extrême à mes yeux d'occidental, en a, semble-t-il, une très grande ici. Un saint homme m'écrit « Je ne sais si vous saisissez bien toute la singularité et la portée de cette manifestation. À nous, hindous, elle semble stupéfiante que des sannyasiens décident de leur propre mouvement d'honorer une étrangère en tant que bouddhiste est un fait qui stupéfie ceux-là même qui l'ont accompli. » On me prie d'expliquer la doctrine du Bouddha, on vous écoute sympathiquement et l'on vous témoigne une respectueuse admiration. Comment se fait-il que ce soit une femme étrangère qui ait produit ce miracle? D'ailleurs, Alexandra, on est très fière, elle est extrêmement contente qu'on lui porte autant d'attention. D'ailleurs, une semaine plus tard, Alexandra revient sur cet événement dans une lettre à Philippe et lui dit combien il est rare que ces sannyasiens de Bénarès, les sannyasiens, ce sont ceux qui vivent retirés du monde dans la pauvreté et la méditation. Donc, qu'ils décident d'honorer une étrangère en tant que bouddhiste, c'est un fait qui stupéfie ceux-là même qui l'ont accompli, lui écrit-elle à nouveau. Le 10 juin 1913, Alexandra écrit comme presque chaque jour à Philippe, son mari. Elle est toujours à Bénarès et son papier à lettres porte l'entête Théosophical Society Européenne. Il ne reste pas beaucoup de lettres de Philippe dans les archives, quand même une cinquantaine. Mais d'après celle d'Alexandra, on comprend que Philippe se sent seul. Et il lui demande certainement à quelle date elle rentre à Tunis. Je vous rappelle qu'elle était partie en août 1911, pour quelques mois, une année sans doute. En voici déjà deux de passé. Et donc, je vais lire sa lettre en réponse à celle de Philippe. Je suis navrée de penser, mon très cher petit, que mon absence te peine autant. Mon absence. Pardonne-moi si une fois de plus je philosophe. Peut-être est-ce moins mon absence que l'absence de compagnie tout simplement, la solitude qui t'est pénible. Je ne suis pas de ces étourdis qui croient que leur personne puisse avoir une attraction si puissante que leur perte soit irréparable. Je sais que si je puis, comme tu me l'écris si gentiment, être quelqu'un comme personnage intellectuel. Je suis une épouse dénuée de relief et de prestige en tant que telle, et à part la satisfaction de vanité qu'un grand homme peut trouver dans le fait d'avoir donné son nom à une dame quelque peu admirée et en vue, je ne dois pas être une source de nombreuses délices pour un mari. Mais enfin, telle que l'accoutumance des années déjà nombreuses de vie commune avait adapté tant bien que mal nos mentalités divergentes et notre vie se poursuivait aimablement dans une quiétude souriante. Cela te manque et je le comprends très bien. J'avoue que je m'étais un peu prise moi-même à la petite douceur bourgeoise et insidieuse des tables fleuries, des repas quelque peu délicats et de ce rien de luxe qui enveloppe la belle grosse maison. Il y a toujours eu dans ma vie d'invisibles déités aux aguets pour me saisir lorsque je glissais, un peu somnolente sur cette pente. Du reste, il n'y a là, chaque fois, qu'un peu de morphine ou d'opium mental. On s'en réveillerait un jour, trop tard peut-être, au seuil de la mort. Et il resterait alors l'infini désespoir de s'être oublié, de n'avoir pas été soi. Revenir, mais c'est absolument dans mes intentions et dans mon programme. Revenir pour écrire de beaux livres, pour donner des conférences dans des milieux savants. Revenir m'étant ménagé la possibilité de cette vie d'activité lettrée qui m'est indispensable. C'est parce que je souhaite revenir dans ces conditions, l'âme souriante, en compagne que tu puisses supporter sur sous ton toit et dont la présence puisse même t'être agréable, que je m'attarde en travaux nécessaires à mon but. Tu le comprends avec une grande sagesse. Elle cite « Un oiseau ramené de force à la cage, enfoncé dans son coin, la tête sous son aile, un oiseau qui ne chante plus, comme tu l'écris, est une triste et misérable chose, et penser que le maître de la pauvre bestiole puisse tirer d'elle grand plaisir est folie. » Toujours à Bénarès, Alexandra décrit à Philippe le 9 juillet 1913 les 3 jours de liesse dans le quartier où elle demeure et qui, d'habitude, est paisible. C'est la fête du dieu du monde. Le dieu du monde, c'est Vishnu, sous la forme de Jagannath, la divinité adorée à Puri. C'est pas loin de Bénarès. Et c'est une bien vilaine forme. Imagine, 3 informes poupées dont les têtes tiennent du singe et du poisson avec une bouche remontant jusqu'aux oreilles. Ces 3 poupées, dont l'une a une face noire, l'autre rouge et la 3e blanche, personnifie un symbole compliqué dont je ne te parlerai pas aujourd'hui. Tout comme à Puri, les idoles sont sur un char et la multitude des fidèles défile devant elles, apportant des fleurs qui sont empilées dans le char par une sorte de, par des prêtres de service auprès de Dieu. Tout au long de la route menant au char, il y a une sorte de foire. Baraques avec jongleurs, chevaux de bois préhistoriques, vendeurs d'images sacrées profanes, échoppes où l'on se pourvoit de bétel pour mastiquer et se faire une ignoble bouche rouge, salivant un liquide semblable à du sang corrompu. Les marchands de fleurs, de guirlandes ne se comptent pas. Il y a des colliers fleuris de toutes les couleurs et surtout de petites feuilles vertes de tulsi, la plante consacrée à Vishnu. C'est d'ailleurs un basilic sacré, la reine des plantes en Inde en raison de ses propriétés purificatrices. On voit de nombreux dévots couronnés de verdure ou de fleurs, et cela leur donne un petit air grec amusant. On offre aussi au public des quantités de statuettes en argile peinte qui représentent toutes sortes de choses, des tigres mangeant des hommes, des dieux, des nymphes et même des policemen anglais. Il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi des fakirs, l'un couché sur un lit de gros clous, pointe en l'air, l'autre la tête enterrée sous un monceau de terre et respirant, le diable sait comment, penserait un étranger. Mais le yoga a des secrets qui expliquent bien des possibilités. Je vois un homme, un soi-disant yogi, délicieux de forme, une vraie statue de Tanagra. Il est complètement nu, sauf le sac minuscule imposé par la pudeur des conquérants britanniques. Sa peau est très foncée, il s'est roulé dans la cendre, dans la boue, si bien que toute cette ordure qui le recouvre ajoute à l'illusion. Vraiment, lui, c'est une statuette qu'on vient de déterrer dans les fouilles d'Herculanum. Ses cheveux tombent sur ses épaules, une menue guirlande de tussis vert les encercle, sa figure est fine, délicate. Orphée, égaré dans cette cohue vulgaire. Au moral, ce doit être quelque éhonté fripon, un coquin, comme on dirait en sanskrit. Mais son moral ne se voit pas. Et il serait un désirable modèle pour un sculpteur. C'est du haut d'une terrasse que je contemple ce personnage. Un des matins de la fête, je suis allée jusqu'au dieu le voir de près. Le Maharaja de Bénarès arrivait justement en auto, vêtu d'un habit blanc rehaussé d'or. On a déployé une ombrelle d'état en brocart rose brodé d'or et le prince a fait le tour du char, puis est reparti dans son auto. Voilà bien du moderne voisinant avec de l'archaïque. En septembre 1913. Alexandra n'est pas encore recluse et elle est au courant par les journaux de tout ce qui se passe dans le monde. Par exemple, elle apprend qu'on venait d'inaugurer le palais de la paix à La Haye et elle écrit à Philippe « Mais quelle fumisterie ! Et comment des personnes ayant l'âge de la raison peuvent-elles jouer à ce jeu de golf ?» Elle pense qu'aucun peuple à l'étranger aime la France et elle écrit jamais les monarchies ne seront franchement amies ou alliées d'une république et d'un peuple de libres penseurs aux tendances socialistes. Oh, je ne suis pas suspecte de haine pour les Anglais, loin de là. Je me trouve très « at home » chez eux. Mais tu n'as pas idée de la façon dont ils nous dépeignent aux hindous et à leurs propres compatriotes des classes peu instruites. Alors, en cette fin d'année 1913, Alexandra s'inquiète, comme souvent, de l'argent qui va peut-être lui manquer. Et elle écrit à Philippe « Tu me dis dans ta dernière lettre, fixe-moi une somme. Mon bien cher, ces questions d'argent me sont très pénibles. Je sais que tu fais des sacrifices, moi, pour me faciliter une voie qui te déplaît à toi. Je ne sais que te dire. Et le jour où il te plaira de dire « Assez », je n'aurai plus rien à dire. Ce sera alors de voir si la philosophie des livres agit et si la robe des yogis était autre chose sur mes épaules qu'un amusant travesti. Mes projets, tu les connais. Séjourner un peu au Tibet, si on me le permet. et compléter mes études tantriques, et puis partir pour le Japon, et finir là mon cycle d'études comparatives du bouddhisme du Nord et du Vedanta. Ce qui signifie 1 an, 18 mois, et signifie aussi être au retour, un personnage de quelque importance dans le monde orientaliste. De ceci, je l'avoue, j'ai peu de soucis, si ce n'est que cette petite notoriété peut me faciliter les moyens de faire connaître des idées qui me sont chères. Tu es, mon très cher, la seule raison qui m'attache au monde. Dans mes pensées, je me vois revenant après ce voyage et écrivant des livres auprès de toi. Cette question de l'argent pour réaliser ses projets est continuellement une préoccupation tenace. Souvenez-vous, elle disait que lorsqu'elle était très jeune et déjà féministe, que les femmes devaient acquérir l'indépendance financière. Pour Alexandra, c'était plus important que le droit de vote. Elle disait qu'il viendrait après. Elle a voulu cette indépendance. Elle est devenue actrice, puis journaliste, et même romancière. Mais elle a échoué. Et après plusieurs devis communes avec Philippe, elle l'a épousé. Et elle lui a écrit dans une autre lettre. « Sache que tu me parais vraiment grand dans tes sentiments et ta conduite, et que, du fond de mon Orient asiatique et du fond de ma studieuse retraite, je t'envoie non pas seulement la simple reconnaissante pensée que l'on peut avoir pour tout bienfait et pour tout bienfaiteur, mais un éloge ému et respectueux, parce que ce moment, tu as agi en vrai sage. Ajoute à ces lignes, mon cher Nouchi, toute l'affection qui ne peut s'exprimer en paroles, et agrée le tout comme l'hommage de quelqu'un qui n'est prodigue ni d'admiration, ni de paroles flatteuses, et qui n'y répand guère son amitié le long de son chemin. » Elle est très reconnaissante à Philippe, quand même, de financer, pour une très grande partie, son grand voyage. La semaine prochaine, nous aborderons la retraite d'Alexandra dans sa caverne, et nous rencontrerons le jeune Afour Yongden, qui entre à son service, et qui ne la quittera plus, même si c'est digne. Et nous serons alors en 1914. Et donc, dans les émissions suivantes, nous évoquerons immanquablement la guerre. À la semaine prochaine.